Si je vous dis Jacques Thériault, pensez à quoi? Ben là, vous savez que j'aime la boxe, là. On va passer boxe. Si je vous dis Jacques Thériault, au 93, ben là, vous allez peut-être dire, ah oui, non seulement Jacques Thériault, il connaît la boxe, mais c'est le descripteur des matchs de boxe présentés à Cogeco. Et si je rajoute que Jacques Thériault arrive du Japon, il est allé, il n'a pas longtemps au Japon, vous allez dire, c'est sûrement pour regarder des combats de boxe. Puis là, il va nous parler de quoi? D'un boxeur, etc. Hein, au Japon, en Asie, aux Philippines, ailleurs, on tripe beaucoup sur la boxe. Pantoute. On va aller parler à Jacques Thériault, puis on parlera pas de boxe.
Ni de soccer. C'est un maniaque de soccer aussi.
Oui, c'est vrai. Non.
Ni de sport.
Ouais. Ben, ça dépend. C'est un peu un sport.
OK. Ouais.
Mais on va parler de poésie. C'est pas une blague. Jacques Thériault, bon matin.
Salut Sylvain.
Comment ça va?
Salut Pierre. Salut. Ça va très bien. Ça va très bien.
Est-ce que la poésie peut être du sport? On va vous parler de ce qu'on appelle la slam poésie. C'est quoi ça, Jacques?
En fait, c'est... Ça a un côté sportif dans la mesure où c'est une joute. Moi, je préfère le mot joute à compétition.
Okay.
C'est un concept de poésie qui a été développé dans les années 80 par un poète américain, Mark Smith, qui trouvait que les soirées de poésie, finalement, c'était assez plate dans la mesure où souvent les poètes communiquaient pas avec leur public. Alors, dans ses ateliers, il a développé un concept de joute où les poètes doivent interpréter, puis le mot est venu en anglais, là, slammer, c'est-à-dire frapper les mots, faire que le texte soit vivant et surtout communiquer, être en contact avec le public. Au théâtre, on dirait ben abolir le quatrième mur, là, qui est le mur imaginaire entre la scène et le public. Et donc, avoir un contact direct avec le public dans une grande liberté de style. Il y a aussi des règles, une vraie joute de slam. Les textes doivent être des textes originaux. C'est pas de l'improvisation, c'est des textes qui ont été écrits, des textes originaux qui doivent pas faire plus de 3 minutes. Et au début de la soirée, le slammestre, l'organisateur de la soirée, si tu veux, il choisit dans le public, en jasant avec le monde, 5 juges qui vont évaluer les performances des poètes slameurs. Et comme dans toute compétition sportive, là, on va prendre les 3 notes médianes et on va faire le calcul. Et à la fin de la soirée, ben il y a un vainqueur qui est déterminé. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est vraiment une grande liberté de style. Les soirées de slam, autre règlement, t'as pas le droit de la musique, t'as pas le droit d'accessoires, mais tu peux faire ce que tu veux avec ton corps. Tu peux te servir de ton corps comme un instrument de musique, si tu veux. Tu peux chanter une partie de ton texte, tu peux le... Il y a des slameurs qui c'est pratiquement du rap sans musique, il y en a qui c'est de la poésie plus traditionnelle, et tous les sujets peuvent être abordés. Donc, c'est pour Smith, c'était la démocratisation de la poésie.
Je veux juste savoir, Jacques, comment t'en es arrivé là? Parce que poésie et boxe, à part Stéphane Ouellet, il n'y a pas de lien. Comment t'en es venu à t'intéresser à ça et à faire ça?
Bon, d'abord, faut que je vous dise que ma nièce, Amélie Prévost, est une slameuse de très haut vol. Elle a remporté la Coupe du monde de slam à Paris en 2016. Donc, Amélie, c'est un peu mon mentor aussi. Et je connaissais un peu le spoken word, parce que le slam est aussi une forme de spoken word, ce que les Américains appellent le spoken word, c'est-à-dire cette littérature orale, de la littérature qui est faite pour être dite, déclamée ou performée. Et moi, je suis un acteur de formation. Moi, la boxe, c'est quasiment un accident de parcours dans ma vie, là. Moi, je suis un acteur de formation, j'ai fait de la scène, j'ai fait du théâtre, et j'avais pas mis les pieds sur une scène depuis 2001. Et après une profonde dépression que j'ai faite il y a 5 ans, là, j'avais 61 ans, quand je suis sorti de ça, ça m'a ouvert toutes sortes de portes à faire toutes sortes de choses, et j'avais envie de remonter sur scène. Puis en parlant avec Amélie, ben j'ai commencé à écrire mes affaires, à gribouiller mes affaires. J'ai fait 2 soirées solo où c'était mes textes. Certains étaient pas pires, d'autres étaient très malhabiles, mais pour moi, je remontais sur scène. J'osais pas participer à des joutes de slam. C'est des slameurs qui avaient entendu mes textes, disaient, genre, faut que tu viennes, faut que tu participes. Et j'ai commencé sous le nom, puis beaucoup de slameurs ont des surnoms, des noms de slameurs. Moi, mon nom, c'est le vieux Jacques. Parce que dans ce que je fais, dans ce que j'écris, le temps est un thème récurrent, le vieillissement, parce que moi, je me bats pas contre la vieillesse. comme je dis dans un de mes textes, la jeunesse, c'est pas une vertu, c'est un état passager, puis la vieillesse, c'est pas une tare, c'est un passage obligé. Mm-hmm. Et moi, j'assume ça de vieillir. Je suis rendu à 66 ans, j'espère faire ça le plus longtemps possible, mais je me réclame pas de jeunesse de cœur ou tout ça. Enfin, tout ça, tu comprends? Ça, c'est ma oui. personnalité de slammer. Oui. C'est autour de ça que je travaille.
Et donc, il y a quoi? Il y a des ligues, il y a des séries de ouais. compétitions à travers la planète?
À travers la planète, soit à la Coupe du Monde à Paris, par exemple, mais il y a d'autres compétitions internationales. Il y a 24 pays qui sont représentés, 24 nations. 24 nations, je dirais, parce qu'au Canada, on envoie toujours un slameur anglophone et un slameur francophone qui vient du Québec. Les slameurs performent dans leur langue avec des surtitres là en PowerPoint, donc les gens peuvent suivre. Moi, j'ai organisé un événement l'an passé qui s'appelait Richesse des langues, où j'ai fait venir un poète japonais, entre autres, qui m'a emmené au Japon plus tard, qui slamait en japonais, mais ses textes étaient projetés derrière. Au Québec, effectivement, il y a une scène de slam très dynamique. D'ailleurs, ce qu'on appelle le Grand Slam, qui est en quelque sorte la finale nationale au Québec, aura lieu à Québec à l'automne. Là. L'an dernier, d'ailleurs, c'est un gars de Québec, un formidable poète qui s'appelle Thomas Langlois, un grand, grand, grand artiste, un immense slameur. Il a terminé deuxième à la Coupe du Monde. Thomas, c'est un gars formidable. Mm-hmm. Et actuellement, c'est les finales, je dirais, régionales partout. La finale à Montréal va avoir lieu le 10 juin. Je vais y participer. L'an dernier, je me suis pas qualifié pour le Grand National. Il y a deux ans, j'y étais, à Rimouski. Et il y a Québec, le Saguenay, Montréal, le Bas-du-Fleuve, Gatineau. Là, je pense que Rivière-du-Loup, maintenant, a sa propre équipe. Il y a Drummondville, on est en train de former une équipe. Donc, plus il y en aura, plus ce sera intéressant. Puis le Grand Slam, c'est une compétition individuelle, une compétition par équipe. On est quatre par équipe à se présenter. Puis j'espère, évidemment, me qualifier pour la finale. Comme on dit dans le monde du sport, j'espère faire le club. Là, pour... j'espère faire le club. Mais ça, ben ça va se passer en compétition. Puis ce qu'il faut que tu acceptes quand tu fais ça, c'est que le jury est jamais le même. Puis tu vas avoir un jury, des fois, c'est des gens que c'est leur première soirée de slam. Alors, tu sais jamais à quoi t'attendre. Puis d'une soirée à l'autre, tu vas faire un texte un soir, puis tu as des notes de 9.6, 9.7. Tu vas faire le même texte la semaine suivante, puis tu vas avoir des notes de 8.4. Tu comprends? Ça dépend ouais. toujours de la réception. C'est ça, la démocratisation du slam.
Ben, c'est ce que j'aime là-dedans, parce que j'allais dire ce que la LNI a été au théâtre. Tu sais, la LNI, c'est du théâtre, mais ça a permis à plein de gens d'aimer oui. le théâtre en allant voir oui. la LNI. Il y a de l'improvisation musicale maintenant qui se fait également. Donc, ça permet de démocratiser un peu la poésie puis de rendre ça plus populaire et accessible en y mettant une espèce de joute puis de compétition. Tant mieux s'il y a des gens qui se réunissent puis qui vont voir ça. Moi, je pense qu'on fait beaucoup plus pour la langue française avec ça qu'en essayant de franciser des noms de commerce ou des affaires. Il y a des
ben luttes, c'est ma grande bataille puis j'ai réalisé deux ans ensuite un événement qui s'appelait Richesse des langues à Montréal. Malheureusement, cette année, j'ai pas eu de fonds pour ça. J'ai pas pu l'organiser, mais toi, la première année, j'ai fait venir... Bon, la richesse des langues, pour moi, c'était un... Ouais. Parce que j'avais été frappé à la Coupe du Monde de slam quand j'étais allé à Paris. Le japonais, il slamait pas en japlais, il slamait en japonais. L'italien, il slamait pas en italglais, il slamait en italien. Et comme ça, dans toutes les langues, pourquoi nous autres, les Québécois, on se sent obligés de faire du franglais? Moi, c'est ma grande bataille. Là, c'est ma manière à moi de combattre ce courant-là. Parce que la langue française est une langue tellement riche. Moi, je slame pas. Il y a des textes que je fais en français normatif, il y a des textes que je fais en français plus populaire, comme ouais. je parle tous les jours. Ça dépend des thèmes que je vais aborder, ça dépend des situations. Là, j'ai écrit un texte sur Hiroshima, sur le dôme d'Hiroshima qui m'a bouleversé. Ben, c'est en français plus normatif, mais quand je vais parler de mes émotions personnelles, mon français va être plus populaire ou plus québécisé, si tu veux, mais j'évite absolument le franglais puis les expressions anglophones parce que notre langue possède toutes les ressources pour créer des images magnifiques, extraordinaires.
Jacques Thériault, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ça ce matin. Merci.
Ça m'a fait plaisir.
Salut. Bonne journée.